Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui à nos côtés, Stéphane Briat. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Qui est ingénieur du son, qui a un studio qui s'appelle Blips.
C'est ça.
Ça s'appelle comme ça.
Oui.
Voilà, BL2EPS. Alors il a un petit surnom qui est Alf.
Oui.
Alors il a l'air désespéré quand je le dis. Alors c'est bien parce que c'est qu'il n'y a pas rapport à la petite marionnette.
À cause de la bête à poil, ouais.
La bête à poil.
Oui, la bête à poil.
Alors il est poilu, hein, je vous préviens. Il a une barbe qui est plus de 4 jours, j'imagine.
Pas autant que la marionnette.
Ceci. Pas autant. Et nous avons à côté Christophe Bouillot.
Bonjour.
Bonjour Christophe.
Bonjour à tous les deux.
Alors Stéphane, depuis combien de temps chez Blips ? Ou à Blips, ou dans la création Blips
Alors Blips, en fait, c'est un projet que j'ai monté il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant. En fait, au début, l'idée de monter une société et de pouvoir avoir du matériel, c'était de me donner un petit peu plus de latence sur les projets sur lesquels j'étais embauché. À savoir que souvent, pour la création d'un album, il y avait un budget imparti qui souvent était un petit peu trop réduit par rapport aux besoins qu'il y avait pour finaliser certaines des productions. Donc mon idée, c'était d'avoir une station de travail intermédiaire qui me permettait de sortir du studio et de m'installer dans un endroit X ou Y. Donc j'avais acheté du matériel que j'avais mis dans des caisses et qui me permettait de me promener et de m'installer un petit peu selon les désirs de l'artiste ou des besoins qu'on avait pour effectuer du travail qu'on pouvait faire juste en sortir de studio et finaliser les choses avant d'entamer la période de mixage. Donc au début, Blips c'était plus voué à cette fonction, tout à fait. Et par la suite, le côté itinérant s'est avéré un petit peu compliqué à mettre en place de manière régulière, selon les projets. C'était facile quand il fallait partir en dehors de Paris et s'installer dans une maison, puisque les endroits étaient faciles à trouver. Mais quand il fallait devoir rester à Paris et pouvoir s'installer dans un endroit libre dans lequel on puisse faire du son, ça devenait un petit peu compliqué pour trouver ces endroits-là de manière régulière. Donc j'ai décidé de chercher un endroit et de poser un camp de base, donc à l'endroit où je suis maintenant. Et petit à petit, j'ai développé l'installation de cet endroit et maintenant, je fais 90% du travail sur lequel je suis engagé dans cet endroit.
Enregistrement et mixage, tu fais ?
Je fais surtout du mixage, principalement dans cet endroit. Et après, souvent, je fais la partie d'enregistrement additionnel. Donc souvent, quand je suis associé à l'enregistrement d'un album, je vais avec le groupe en studio qu'on choisit en fonction du disque qu'il y a à faire, des membres qu'il y a enregistrés, de ce qu'on recherche comme résultat. Et ensuite, après cette phase-là, on retourne chez moi, soit pour enregistrer les éléments additionnels, soit pour juste mixer ce qu'on enregistre en studio.
Alors j'ai été très curieuse sur ton profil et je suis tombée sur une interview de Audio Buster qui est parue au mois de juin 2010. Où tu décrivais un petit peu la route que tu avais suivie pour devenir ingénieur. Alors, il semblerait que tu aies eu quand même une formation assez empirique,
oui.
Un peu faite sur le tas. Alors, comment est venue cette idée de devenir ingénieur du son ?
C'est une idée que j'ai eue à l'adolescence. En fait, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Un petit peu jour et nuit, même à une certaine époque. Je m'endormais avec le baladeur et je consommais de la musique un peu tout le temps. Et j'ai eu une expérience où moi, j'ai essayé de faire un petit peu de musique moi-même en m'achetant un petit peu de matériel. J'ai jamais pris de cours d'instrumentiste, mais j'étais attiré et par la musique que j'écoutais et par le son de certaines machines ou le fait qu'on puisse malaxer du son avec des machines. Donc c'est un peu l'association de ça qui m'a fait venir finalement à cette activité. En même temps, l'intérêt pour les chansons, la musique en général et l'intérêt pour la technologie. C'était un peu le mélange de ces deux choses qui m'ont fait un petit peu envisager ce boulot-là que je ne connaissais pas vraiment. Mais dans l'idée de ce que je m'en faisais, j'étais intéressé à l'association de ces deux univers qui m'intéressaient et l'un et l'autre.
Alors quels sont par exemple les artistes qui t'ont le plus intéressé au niveau enregistrement ?
Moi, j'essaye de m'engager sur des projets artistiquement assez différents les uns des autres.
Au niveau d'écoute, quand tu étais adolescent...
Ah, pardon, à cette époque-là.
À cette époque-là, je veux dire, il y a des moments où on est attiré par certains artistes, par la qualité du son,
oui.
Par la qualité de l'enregistrement.
C'est pas forcément ce que je me disais, en fait. J'écoutais pas forcément la qualité de l'enregistrement. Ce que je ressentais, est-ce que ça me fait quelque chose ? Est-ce que ça me provoque des sensations ou pas ? C'était plus ça, mes critères. Après, on se dit, tiens, j'ai des sensations sur tel ou tel disque, mais pourquoi finalement? Donc on essaye de savoir un petit peu plus et d'affiner un petit peu son goût et de savoir un petit peu ce qu'on aime et pourquoi on aime ça plutôt que ça. Et ça vient de fil en aiguille. Après, je pense que toute l'adolescence, on se construit un petit peu son univers et ce qu'on aime écouter. On découvre des choses tous les jours qui ne sont pas forcément des choses qui vont rester comme des choses importantes dans la culture musicale, mais c'est des choses qui font qu'on se construit et dans les goûts et dans la manière de percevoir la musique. C'était assez lié à l'époque dans laquelle je grandissais. Moi, j'avais 10 ans en 80, donc j'ai passé toute mon adolescence, on va dire entre 80 et 90, à suivre un petit peu l'évolution de ce qui se faisait dans un milieu plutôt pop-rock, en fait. Moi, c'était plus cette musique-là qui m'attirait. Donc souvent anglo-saxonne, au début anglaise et puis après plus américaine. Et puis toujours, puisqu'on vit quand même en France et qu'on entend malgré tout des choses à la radio diverses et variées, il y avait aussi toute cette culture de chansons françaises qui malgré moi m'imprégnait malgré tout. Et même si j'avais pas forcément conscience que ça pouvait me satisfaire ou me plaire, c'est des choses qui sont rentrées en moi et que plus tard j'ai pu à travers mon boulot recracher, enfin si on peut parler comme ça.
On s'aperçoit de toute façon que l'oreille quand même qu'on a quand on est adolescent et à partir du moment où on se met dans la musique, les choses qu'on a entendues effectivement à l'âge de 12, 13, 14, 15, 16, je m'aperçois quand même qu'au niveau du son que l'on peut produire ou qu'on le recherche quand on a 20 ans ou 30 ans, s'appuie toujours sur ce qu'on a pu écouter plus tôt.
J'ai l'impression aussi. Ouais, je pense que c'est un petit peu le tapis, la base. Après, il se construit des choses différentes en fonction des parcours musicaux qu'on emprunte au fur et à mesure du temps et des expériences et des gens qu'on rencontre. Mais c'est vrai que cette base-là, ce petit ciment, c'est un peu le ciment naturel. On y revient un peu toujours, malgré soi. C'est un peu l'élément dans lequel on se sent un petit peu à l'aise, où il n'y a pas forcément de faire... les choses se produisent sans trop réfléchir, ça se passe assez naturellement. Avec certains styles, avec certaines choses qu'on a directement un petit peu ancrées en soi. Donc après, ça peut être un mélange de plein de choses et puis ça donne un petit peu peut-être ce qui fait notre particularité à chacun.
Alors curieusement, tu as fait tes débuts dans un studio à la Bastille.
Oui.
Qui était spécialisé, alors je me trompe peut-être, sur le rap.
Oui, enfin c'était un peu malgré eux, c'était surtout que c'était un studio qui venait d'ouvrir en 1990 et c'était vraiment le début de la production rap. En France, ces maisons de disques commençaient à signer des artistes qui venaient de ce milieu musical. Donc, par un concours de circonstances, il y a un gros groupe qui n'était pas gros à l'époque, s'appelait NTM, qui était venu faire leur premier enregistrement dans ce studio-là. Donc du coup, il y a toute une scène qui a suivi derrière, puisqu'il y a toujours le côté « machin était là, donc on va y aller nous aussi, ça doit être très bien ». Et du coup, j'ai vu défiler un petit peu toute cette jeune scène, qui était aussi jeune que moi d'ailleurs, parce qu'on avait un peu le même âge. Donc c'était amusant de rencontrer des gens qui a priori n'avaient rien à voir avec les gens que je pouvais côtoyer. Même si moi je venais de banlieue, c'était pas forcément la culture musicale que j'avais. Toute la musique noire, à part deux ou trois disques de Stevie Wonder et quelques disques, j'avais pas vraiment une culture noire ou de musique soul développée. Donc c'est en étant au contact de toute cette génération de rappeurs, en fait, qui, eux, samplaient, donc prenaient des extraits de tous ces disques, que je me suis mis finalement à découvrir cette musique noire américaine et à en consommer aussi. Donc il y a eu ça, et dans ce studio-là, il y avait aussi bien du rap aussi que de la musique africaine, surtout zaïroise, enfin congolaise, maintenant on ne sait plus trop comment il faut dire, ça change tous les 5 ans. Et donc du coup, c'était aussi la découverte de ça, de toute cette musique africaine, qui était arrivée un petit peu en France. On avait eu des artistes comme Mori Kanté, qui était devenu un petit peu populaire, mais la vraie musique typique zaïroise, c'était quelque chose qui était très exotique pour un jeune de 20 ans en 90, qui n'était pas vraiment sorti de chez lui, quoi, qui était un peu dans son petit monde de blanc-bec, quoi. Donc là, ça m'a intrigué, en fait, tout ça.
Qu'est-ce que cela t'a apporté au niveau des rythmiques, par exemple ?
Bah déjà, c'était surtout humain, en fait. Avant musical, c'était côtoyer des gens d'un univers social complètement différent, qui ont des habitudes différentes de ce que moi, j'avais pu avoir comme éducation. Donc c'était être en contact de tout ça, déjà, qui était assez stimulant. Après, la musique, c'était une espèce de plus. Mais ce que je remarquais au premier abord, c'était plus le contact humain et ce rapport-là, en fait, les rencontrer des gens différents. Et c'est ça que m'a apporté le studio dans un premier temps. Parce que je voyais ces gens-là, mais aussi bien des gens qui venaient de la variété et qui étaient les gens des maisons de disques, qui étaient aussi très différents de tous les... Enfin, tout ce brassage de personnages différents, je pense que ça fait partie aussi de l'ouverture et l'apprentissage du studio aussi. Espèce d'ouverture sur la vie, finalement, sur les autres.
À la sortie, ou tout au moins, vous étiez encore...
Très innocent, ouais.
Il me semble, alors je ne sais pas si je tutoie ou je vous vois.
Ouais, tutoie, ouais.
Je tutoie.
On tutoie bon. Tous, comme ça, c'est plus simple.
Voilà. À la sortie du studio de la Bastille, il me semble que tu te recherches, mais tu dis à un moment que tu as envie d'avoir des enregistrements de plus grande envergure.
De participer à des enregistrements de plus grande envergure. En fait, justement, dans ce studio de la Bastille, on faisait surtout des projets, soit avec des labels indépendants, soit avec des artistes africains. Enfin bon, et j'avais envie de participer à des... Parce que ça m'intéressait de voir comment on se produisait un disque de variété, un disque avec un groupe de rock un peu prestigieux. Enfin bon, un petit peu confronter la musique que je pouvais avoir envie d'écouter et celle qui m'était donnée de pouvoir observer en studio. Donc pour ça, en fait, je me suis dit que c'était intéressant d'aller dans un studio avec un complexe plus évolué que le studio dans lequel je me trouvais. Et du coup, j'ai essayé d'orienter ma candidature sur le studio Plus 30, qui était un gros complexe à l'époque, et dans lequel il y avait aussi bien des artistes internationaux que des gros artistes de la variété française qui venaient produire leurs enregistrements. Donc en ça m'intéressait de pouvoir... aller voir comment ça se passait, puis de travailler aussi avec d'autres techniciens, beaucoup de techniciens étrangers, beaucoup d'anglo-saxons qui étaient soit employés directement par des artistes français, soit qui venaient avec des artistes d'équipe internationale. Donc ça aussi, c'était intéressant de pouvoir un petit peu assister à quelle était la philosophie de ces gens-là, quelle approche pouvaient-ils avoir dans leur travail, est-ce que c'était différent de ce que je pouvais voir habituellement, est-ce qu'ils faisaient les choses de manière plus sophistiquée, plus simple. Enfin bon, tout ça, ça m'a permis... Enfin, être dans cet endroit-là, d'être en contact avec tous ces gens encore, c'est encore plein de rencontres humaines. C'est ça, je crois, aussi qui est important. Il y a vachement d'humains, en fait, beaucoup plus que de technologie dans tout ce boulot.
Oui.
Donc la technologie, c'est bien, c'est l'outil, c'est un peu le vecteur par lequel les choses se produisent au studio, mais c'est surtout la relation entre les gens et comment on capte les attentes de chacun et ce qu'on peut donner ou pas aux gens, ce qu'ils sont prêts à recevoir. Enfin, c'est tout ça qu'on apprend à sentir en fait en travaillant en vase clos dans un studio, au départ comme assistant, en donnant pas son avis, en étant là, juste en observant, en essayant d'être serviable au moment où il le faut. Et puis après, ensuite, c'est la déclinaison de ce moment-là, mais de manière un petit peu plus impliquée. Dans le projet, à essayer progressivement de proposer ses idées au fur et à mesure que la confiance arrive aussi. Plus on travaille, plus on a de confiance en soi, donc plus on peut proposer ses idées et plus les gens sont à même de les accueillir ou pas, quoi.
Je pensais pourtant qu'en travaillant dans des gros studios comme Plus 30, il y avait quand même une certaine pression ou un certain diktat des majors. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende ?
Je sais pas si ça a un rapport avec les... je comprends pas bien la question, en fait.
C'est-à-dire dans la façon de vouloir enregistrer certains types de musique, certaines variétés, où les directeurs artistiques des majors imposent une volonté qui n'est pas toujours donnée dans l'artistique.
Bah, disons qu'il peut y avoir un son variété académique, mais qui a tendance à plus ou moins s'effacer, puisque de toute manière... même la production française se référence par rapport à ce qui fonctionne de la production internationale. Donc c'est toujours une espèce de petite réponse à l'ère du temps, ce qui est produit à l'international et qui est dérivé sur le marché français. Enfin, donc ils essayent plus ou moins d'adapter ce qui se passe à l'international à un marché français, avec plus ou moins de réussite ou pas. Après, il y a quelques artistes qui ont leur propre... couleurs et sensibilités et qui sont pas forcément une pâle copie ou une copie dérivée d'un artiste reconnu internationalement.
Alors on te présente comme un élément majeur de la French Touch.
Dur.
Ah, est-ce que pour toi c'est un compliment ?
Je sais pas.
Est-ce que t'as envie d'être en dehors de ce genre de mouvement ? Est-ce que tu crois que la French Touch existe vraiment ?
En fait, l'appellation French Touch, elle est arrivée à une époque où, c'est pas un hasard, mais il y a eu une arrivée de production d'un même type sur une concentration de quelques mois ou d'une année ou deux de jeunes artistes qui ont déboulé de nulle part et qui se sont imposés sur le marché international. Et c'est ça que la presse a relayé comme French Touch, mais... Il n'y a pas vraiment une bande ou un clan French Touch, c'est juste des gens qui, à l'époque, y ont cru un petit peu et puis ont réussi à vendre leur projet de manière internationale, alors qu'avant, c'était difficile de le faire. Quand on était français, on restait plus ou moins cantonné au marché français. Et il y avait assez peu d'artistes qui arrivaient à avoir une place sur un marché international. Et de par l'arrivée de, en fait, qui est une espèce de revival disco, en fait, ça se situe au milieu des années 90. Il y a toute une arrivée par le côté musique électronique, house music, techno, de nouvelles générations d'artistes qui ont plus besoin de faire des chansons pour faire des morceaux. Les maisons de disques qui commencent à se dire qu'il y a peut-être un petit peu d'argent à se faire en essayant de promouvoir ce genre d'artistes, donc qui se lancent à produire des artistes qui sortent de nulle part et qui font des morceaux instrumentaux et qui mettent des moyens là-dessus. Donc du coup, ça propulse le phénomène et plus ou moins tout et rien est estampillé French Touch, quoi. Donc c'était un terme générique pour... encapsuler un petit peu toute cette scène ou toute cette vague de gens, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas un créneau musical spécifique à la French Touch qui peut définir d'une manière très précise la French Touch. Il y avait des groupes assez différents là-dedans qui étaient tous appelés French Touch, quoi, mais qui n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Donc c'est un faux truc, c'est un truc de journaliste, quoi. C'est pour essayer d'estampiller quelque chose d'un petit peu virtuel. C'est plus une espèce de génération qui a réussi à déborder un petit peu plus loin que ce qui était permis jusqu'à présent. C'est plus ça. Après, il y a eu le phénomène dans la musique et puis il y a peut-être eu un phénomène identique, je ne sais pas, dans le graphisme ou dans la mode. Et donc, tout était French Touch. Enfin bon, c'est facile
de tout temps. Il s'avère aussi qu'il y a quand même pas mal de... Maintenant, il commence à y avoir pas mal de groupes qui chantent en anglais, justement pour s'internationaliser, et qui veulent donc sortir de ces frontières françaises dans lesquelles la plupart des maisons de disques, finalement, elles sont imbringuées dans la France. Moi, je me souviens avoir discuté avec pas mal de distributeurs il y a une dizaine d'années. Je parle bien d'il y a une dizaine d'années parce que tous les distributeurs avec lesquels j'ai discuté ont tous fait faillite. Et tous avaient dit non, nous, ça ne nous intéresse pas, le marché extérieur, le marché international. Nous, ce qu'on veut, c'est le marché français. Un artiste qui travaille en France. Et je trouvais cette vision un peu obtuse. Parce que je me suis dit...
C'est réducteur.
French Touch, c'était très réducteur et je me suis dit, ils ont des tas d'artistes en France qui peuvent s'internationaliser énormément, enfin qui ont le potentiel pour aller à l'extérieur et finalement on les restreint, on les laisse sur des petites scènes françaises et où ils peuvent pas évoluer.
En fait, je pense qu'il y avait un truc de langue au départ. Il était interdit, je crois, par les maisons mères que les filiales françaises signent des artistes qui chantent en anglais, tout simplement. Parce qu'il n'était pas question de faire de la concurrence à ce qu'eux avaient à vendre venant de la maison mère, des États-Unis ou de l'Angleterre. Donc il y avait, vous vendez notre cam et puis vous produisez un petit peu votre petite tambouille, tant bien que mal. Et ça a explosé avec le temps. Maintenant, je pense que artistiquement, c'est un peu n'importe quoi que les jeunes. Maintenant, tous les jeunes peuvent chanter en anglais. Enfin, il n'y a plus vraiment de barrière de langue entre un jeune français ou un jeune suédois qui fait de la musique pop électronique. Il n'y a plus vraiment de différence. Tout le monde a un peu une espèce de culture globale. Tous les jeunes ont accès à YouTube et au catalogue de tout ce qui a pu se produire ces 50 dernières années. C'est facile de se faire une culture en zappant. Les choses sont plus facilement accessibles, donc je pense que il y a beaucoup de choses, mais ça uniformise.
C'est comme internationaliser, c'est très très dur.
Ça uniformise.
Ça uniformise un petit peu toute cette culture, et du coup qu'on soit un peu espagnol, suédois, français, On peut faire du pop-rock qui chante en anglais et ça peut faire la farce. Après, c'est toujours un petit peu délicat d'avoir un personnage qui chante en anglais avec un très mauvais texte parce que c'est pas sa langue et avec un accent qui est ridicule pour un anglo-saxon. Ça serait un peu comme nous entendre une japonaise chantant très mal en français. Je sais pas si ça nous ferait rigoler très longtemps. C'est un petit peu à prendre avec des pincettes. Il y en a qui s'en sortent bien dans cet exercice, et puis la majorité, je pense qu'ils sont un petit peu ridicules, qu'il devrait mieux de chanter en français.
Alors, tu as beaucoup d'artistes avec lesquels tu travailles, dont tu as travaillé avec Alex Goffer, tu as travaillé avec autour de Lucie, Sébastien Tellier, tu as Camilla Jordana. Qu'est-ce qui t'intéresse chez ces gens-là, finalement? Enfin, je veux dire, au niveau musical, qu'est-ce qui t'attire et qui te titille?
J'essaye de travailler avec des gens dont j'ai la sensation qu'ils font sincèrement les choses. Moi, il y a mon goût personnel qui fait que j'ai envie de travailler avec tel ou plus avec un tel plutôt que tel autre. Mais je suis assez ouvert. J'aime bien m'enrichir de l'univers d'un artiste pour travailler ensuite sur un autre projet qui n'a rien à voir. Et puis les choses peuvent se mélanger entre... Parce que les demandes d'un artiste sur... Ça dépend où je me situe dans le projet, mais par exemple en mixage, il peut y avoir des choses qui n'ont rien à voir dans la sensibilité d'approche de mixage d'un morceau par rapport à un autre en termes de style. Et le fait de travailler avec des artistes très différents peuvent enrichir le feeling qu'on a sur un morceau de par l'expérience qu'on a eue avec l'artiste précédent. Donc c'est un espèce de mélange comme ça où en fait mon travail avec les gens, j'ai l'impression, ne font que m'enrichir aussi et m'apporter quelque chose que je peux éventuellement digérer et remalaxer pour remettre quelque chose différemment après dans un autre projet. Je le prends un peu comme ça, quoi. J'essaye de leur donner ma sensibilité et en même temps je gloutonne un peu la leur.
Alors, il y a une réflexion que tu as faite également. Tu dis qu'il faut arriver à quelque chose d'abouti. Et à un moment, tu parles d'un groupe et tu dis « Je suis fan de ce son un peu maquette ».
Mais
ce n'est pas paradoxal.
Ouais, mais ça va avec le fait que ça puisse être sincère et naturel. Souvent, des fois, la manie de trop travailler ou de sur-travailler, surproduire les choses, fait qu'on perd une espèce de légèreté, une spontanéité. Et du coup... En termes de ressenti pour l'auditeur, souvent c'est moins efficace. C'est moins, c'est mieux ficelé, mais c'est moins touchant. Et je pense que les qualités, souvent, sont générées par les défauts. Et c'est ça qui rend les choses attachantes. C'est les petits défauts, les petites choses qui font qu'on s'attache ou qu'on apprécie. La perfection, finalement, elle est assez ennuyeuse. Une fois qu'on a écouté deux, trois fois un truc parfait, bon, on n'est pas vraiment surpris. Alors quand on écoute un truc avec des petites subtilités, des petits bricolages, des choses un petit peu maladroites, il y a quelque chose d'un petit peu magique, parfois. Bon, des fois c'est simplement maladroit et pas intéressant, mais souvent ça crée un petit mélange qui fait que ça a de l'intérêt. Et j'aime bien ça, ce petit bricolage, cette petite chose qui fait que ça va être tellement maladroit que ça va pas sonner comme le truc d'à côté, et c'est ça qui fait son charme.
C'est un peu paradoxal, non?
Oui.
Mais pour un ingénieur du son.
Ouais, mais la notion du bien, elle est...
Enregistré dans votre garage, mais dépensez pas 30 000 euros pour aller voir un studio.
Et puis en plus, en ce moment, je trouve qu'on est, vraiment dans ce truc-là où il y a une technologie qui est directement accessible un petit peu tout à chacun. Et il est facile de s'exprimer, en tout cas. Après, ça peut être fait d'une manière très maladroite et avec des qualités techniques très mauvaises, mais ça peut procurer une sensation. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une jeunesse qui n'en a plus rien à faire, en fait, de savoir si c'est correctement enregistré ou si c'est fait de manière académique. Ils font les choses, simplement. Et des fois, ça suffit. Et l'auditeur se suffit à ça aussi. Parce que l'auditeur, il s'éduque aussi un peu dans la dégradation, on va dire.
Bah, de toute façon, il y est en ce moment.
Il y est.
Il est en pleine... Mais... à écouter des mauvais MP3, voilà. Ça n'arrange rien, ça n'arrange pas les oreilles.
Oui, mais ça transforme l'écoute et du coup, ça peut engendrer quelque chose de créatif malgré tout. Ça malaxe les choses différemment. Pourquoi ça serait un son pur et défini, la matrice de ce qui est bien? Ça pourrait être l'inverse. Après, ça peut peut-être ne pas parler à toutes les oreilles en même temps. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un bon son. Je pense que le bon son, c'est déjà une bonne chanson et quelque chose qui transmet des émotions. Le bon son, il vient automatiquement, en fait, quand la chanson est bonne, quand l'arrangement est bon, même si c'est enregistré de manière mauvaise, si tout est bon, ça devient bon. C'est un faux problème, en fait. Après...
C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on enregistre, à partir du moment où on est un bon groupe, où on groove pas mal...
Que l'attitude est bonne...
Que l'attitude est bonne, l'enregistrement, c'est pas grave.
Moi, j'ai l'impression ouais, que c'est pas le plus important, en tout cas.
Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Tout à fait. Après, je pense qu'on peut avoir différents points de vue sur ce sujet. Je pense que c'est pas du tout applicable. Par exemple, on parlait de M. Tessier-Ducrot tout à l'heure. Je pense que c'est... La vision inverse de celle que je peux avoir, je pense, est très pointilleuse sur comment les choses sont enregistrées et c'est fait avec du savoir-faire.
Oui, mais on arrive à avoir des albums qui sont des petits des bijoux dans des écrins. Hein. Je veux dire, c'est prodigieux. Hein,
oui, puis c'est subtil parce que oui. L'espèce de voile qui peut se produire quand le son est mauvais ou pas ultra défini, produit une espèce de voile un petit peu comme un brouillard qui fait que ça masque un petit peu des choses qui font qu'on ressent les choses différemment aussi en tant qu'auditeur. Parce que ça fait une espèce de brouillard, de bouillie qui fait que ça peut être séduisant. Parce qu'on entend les choses de manière moins détaillée et du coup on reçoit plus une chose.
La musique passe au premier plan et pas la
technique. Oui, l'émotion passe au premier plan, en fait. S'il se passe quelque chose, si l'artiste délivre quelque chose, ça va passer, malgré tout.
Oui, ça dépend des auditeurs, en fait.
Oui, peut-être après...
Il faut que la musique touche l'auditeur, c'est sûr.
Combien de fois j'ai écouté des indépendants américains, autant j'ai été enthousiasmée par les chansons, par leur musique, et autant j'étais en train de me dire, mon Dieu, mais c'est déplorable, l'enregistrement est déplorable, et ça casse tout, en fait.
Ça peut aussi. C'est vraiment à double tranchant.
C'est peut-être de la déformation professionnelle aussi, parce qu'on est dans ce milieu-là, on travaille dans le son, mais le quidam moyen qui va écouter, qui va avoir les frissons, de poule en écoutant une chanson, il va peut-être pas se dire « c'est con » parce que ça aurait été peut-être encore mieux s'ils avaient utilisé une bonne acoustique, un bon micro, s'il n'y avait pas autant de souffle.
Puis il y a tellement de vieux disques qu'on adore, qui sont pas optimum en termes de qualité, qui ont plein de défauts et que moi j'adore, qui ont une dynamique pourrie, il y a plein de disques avec un sale son que je trouve vraiment charmant. Et justement, je me dis, ah, c'est intéressant, ce mélange, ce petit truc. C'est des fois ces espèces de pattes qu'on essaye de retrouver. Et c'est difficile d'intégrer ça à des enregistrements modernes. Parce que les contraintes technologiques, elles ne sont plus les mêmes. Les outils ne sont plus les mêmes. On est passé à une ère où techniquement, je vais rentrer dans une considération technique où tout le signal est beaucoup plus fort que par le passé. La gestion de la dynamique, elle n'est plus du tout la même. Tous les sons sont très présents, très forts. Donc du coup, ça ne fait plus les mêmes sensations aussi. Donc des fois, on essaye de retrouver des sensations d'antan avec des valeurs de contraste de maintenant. Et ça ne marche pas vraiment, ça ne fait pas la même chose.
Mais ce n'est pas dû justement à aligner un peu par le fait d'avoir des radios hyper compressées, d'avoir cette façon d'enregistrer un peu sur... Il y en a qui adorent ça, d'avoir tout sur la même ligne et pas de spatialisation. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'on arrive à avoir une dégradation finalement?
Certainement, ouais. Disons que ça uniformise en fait la production. Tout est passé un peu dans une espèce de même tuyau. Ça concentre un petit peu ce qu'on a l'habitude d'entendre dans une espèce de oui, ça tout passe dans un espèce de tuyau qui va écréter un petit peu les informations.
Il y a un moule, quoi, tu veux dire.
On va parler un petit peu technique.
Oui.
Est-ce que tu es tourné un peu sur les techniques du passé ou tu jongles avec les deux ou alors tu es toujours celui qui est un peu gadgetophile en train de chercher la petite chose qui fait que c'est vraiment génial?
Comme un peu souvent mes collègues, on aime bien chercher la nouvelle boîte, le nouveau petit gadget qui va nous amuser un quart d'heure. J'aime bien, justement, de par l'amour que j'ai pour certains vieux disques, essayer de voir un petit peu comment étaient produits ces disques-là et effectivement d'utiliser peut-être des fois des portions de technologie de cette époque, assez caractéristiques de par leur technologie et ce que ça peut apporter en termes de couleurs. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qui m'attire. Et je suis plus attiré vers la vieille technologie que vers la nouvelle. Enfin bon, tout dépend. Et maintenant, c'est vraiment une espèce d'alliage entre modernité et vieillerie qui fait un petit peu la couleur d'aujourd'hui.
Alors, on va imaginer, tu as trois choses à emmener de ton studio pour aller t'installer aux États-Unis. Et trois choses avec lesquelles tu ne veux absolument pas, tu ne veux pas t'en déposséder. Ça serait lesquelles ?
Je crois que je peux partir avec juste une boîte. J'ai un petit EQ tout simple, rudimentaire, Telefunken, que j'utilise très régulièrement, qui est juste un grave aigu et un petit balayage dans le médium. C'est vraiment le truc très rudimentaire, je pense que c'est ça que j'emmènerai. C'est un petit rack 1U, voilà.
Christophe, as-tu des questions ?
Oui, j'en ai une, je pense, à une rencontre qu'on avait eue tous les deux il y a quelques années et où tu jouais avec un prototype du biscuit.
Oui.
Donc je voulais savoir si tu étais. Comment ça s'était passé ? Est-ce que tu connais le concepteur ? Est-ce que tu es impliqué dans le développement ? Est-ce que tu es à l'origine de la demande de ce produit ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Enfin, nous parler
ouais,
un peu de ce truc-là.
Alors, biscuit, c'est une petite unité de traitement qui permet de convertir le signal entrant en signal 8 bits par rapport au son CD qui est la technologie 16 bits. Donc 8 bits, c'est la moitié de la qualité du son CD. Donc en gros, c'est la même chose en plus pixelisé, quoi, pour faire un rapport avec de l'image. Et la spécificité de la machine, c'est qu'on peut agir indépendamment sur chacun des 8 bits, à savoir définir s'il est enclenché, on, positif ou négatif. En fonction de ces différents réglages sur les 8 bits, ça crée des distorsions de forme d'ondes qui font des distorsions plus ou moins fortes qu'on peut filtrer, délayer, pitcher. Donc du coup, ça a son utilité sur pas mal de sons, surtout dynamiques, pour permettre de granuler un petit peu et d'apporter un petit peu de caractère à un son qui en manquerait un petit peu. Les choses un petit peu fades, qui paraissent un petit peu fades, ça donne un petit peu de croustillant au son. Et en fait, le biscuit est venu d'un garçon que j'ai rencontré quand j'ai travaillé dans un studio qui s'appelle le studio de La Frette, qui est en banlieue parisienne, dans lequel il y avait un garçon qui s'appelle Denis Casageux, qui s'occupait de tout l'équipement technique et de l'accueil des ingénieurs du son freelance. En travaillant avec Denis, on a sympathisé et finalement il m'a emmené dans son labo et j'ai vu qu'il faisait des expérimentations de création ou de recréation de vieux processeurs d'effets ou d'instruments. Et du coup, j'étais assez impressionné par son savoir-faire et on est resté en contact, on est devenu assez proches. Et un beau jour, il vient me voir et il me dit « Ah, j'ai fait un petit montage ce dimanche dans ma cuisine. Tu devrais l'essayer, c'est rigolo, il m'amène une boîte à beurre avec quelques boutons et des fils qui sortent du truc. Il me dit tiens, essaye ça. Et je branche ça sur ma boîte à rythme et je trouve ça démentiel. Et là, je lui dis, tu sais, ton truc, je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes que moi. Et du coup, on s'est dit, ah oui, c'est peut-être une bonne idée. Il était un petit peu timide sur l'idée au départ. Et puis finalement, j'ai réussi à le convaincre de monter une société et d'essayer d'achever cette machine de manière un petit peu plus alléchante, aussi bien en termes de possibilités que de design, et de pouvoir la produire en série pour pouvoir la vendre. Donc on s'est lancé un peu tous les deux là-dedans, donc lui étant vraiment le cerveau, tout ça, et puis moi je fais un petit peu la direction artistique. Donc il y a eu aussi bien mes réflexions d'utilisateur propre que tout l'aspect esthétique sur lequel moi j'avais un avis, Denis moins, et moi je lui ai proposé des solutions, des gens avec qui travailler, on a vu des designers, on a dessiné nos boutons, et puis finalement on a réussi à produire cette machine qu'on vend depuis le mois de février, donc ça s'appelle le biscuit, et qui est distribué maintenant à travers le monde, à travers une vingtaine de distributeurs avec lesquels ça se passe pas mal. On a pas mal d'utilisateurs assez reconnus dans des styles assez variés musicaux qui l'utilisent assez régulièrement pour leurs disques. On est assez flattés de ça. Ouais, des gens assez prestigieux, ça va de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, à Thomas Bangalter des Daft Punk, ou Martin Gore de Depeche Mode, ou Muse, ou enfin bon, plutôt dans un réseau pop rock. Il y a aussi pas mal de Japonais qui font de la noise, des choses très bruitistes et tout ça, qui utilisent ça. Et puis on a un super feedback des utilisateurs sur Internet, des gens qui postent leurs expériences avec leur machine et le biscuit. Donc il y a un bon petit feedback. Et de par l'encouragement de ce produit-là, on prépare une autre machine un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus audacieuse. Voilà, qu'on espère finaliser avant la fin de l'année.
Bien, ce sera l'occasion de vous recevoir éventuellement tous les deux pour que Denis nous parle du truc.
Tout à fait.
Avec plaisir.
Ça s'appelait Bazar, pour rester dans le...
Tout un programme.
Donc voilà, mais en tout cas, c'est une chouette aventure d'essayer de se dire déjà qu'on va proposer quelque chose de différent, de nouveau à des musiciens, puis de mener à bien cette histoire.
Je crois qu'il n'y a pas que des musiciens qui ont ça. Moi, j'ai croisé quelques ingé-sons qui se mettent ça dans leur rack
aussi, ouais,
en douce, et puis ça leur fait une arme de plus pour typer le son.
Enfin, il y a des sound designers de chez Pixar aussi qui utilisent ça.
D'accord.
Ouais, c'est marrant, ça touche pas mal de gens qui sont tous intéressés par le son.
Ouais. C'est genre de petite boîte secrète. Ouais. On parlait un petit peu tout à l'heure des grands studios. Les gens pourront voir sur Internet des photos de ton studio. Toi, tu as choisi...
Il n'est pas
immensément grand. Il y a quelques périphes bien choisis, etc. Et tu as choisi de mixer sans console. Tu fais tout dans... Tu es un sommateur externe. Quels sont tes choix en ce qui concerne le mixage, le matériel, etc.
Alors en fait, ma solution, c'est une solution de mélange entre le traitement numérique à l'intérieur de l'ordinateur et du traitement analogique à l'extérieur. Donc que j'utilise soit en insert sur mes sorties ou sur mes pistes digitales, soit des inserts que je mets entre la sortie de mon Pro Tools et une mixette qui me permet de mélanger tous les signaux avant d'attaquer le deux pistes qui servira de format final au mixage.
Tu utilises beaucoup de plugins ou tu évites au maximum ?
Non, j'utilise pas beaucoup de plugins.
Pas beaucoup ?
Non, parce que je fais du traitement par paquet. Et souvent, en fait, j'essaye de colorer avec le traitement externe analogique et de corriger, souvent de couper avec le plugin. Je rajoute avec de l'externe et souvent j'enlève avec du plugin. D'accord. Voilà, mais j'essaye de rester simple dans ma manière de travailler. J'utilise pas, je fais pas des montages très compliqués. J'essaye de faire des choses juste. Avec mon ressenti et pas forcément avec la technicité.
Tu as le temps encore d'enregistrer ? Tu fais encore des enregistrements ? Tu te concentres vraiment plus sur le mixage ?
J'essaie de faire le plus possible de mixage. Par contre, un ou deux projets par an, je m'engage sur de la réalisation, de la co-réalisation. D'accord. À ce moment-là, je participe au processus d'enregistrement. Voilà. Souvent, je me fais assister par quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler.
D'accord.
Raphaël Séguin, pour ne pas le citer. Avec qui je fais une bonne équipe et qui s'occupe de faire des edits ou de s'occuper de l'ordinateur, de s'occuper des balances casques quand il y a un groupe. Du coup, moi, je peux me concentrer sur l'écoute et sur le son. Et c'est assez confortable comme situation.
Bien, quels sont les prochains projets ?
Ils ne sont pas tous fixés, mais il y a plusieurs projets. Il y a un nouvel album avec un artiste avec lequel j'ai travaillé il y a un an et demi qui s'appelle Arnaud Florent Didier, qui fait de la chanson. Avec lequel j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler sur son précédent disque, de par le fait que lui était en constante recherche de sensibilité et d'émotion, et qu'il n'y avait absolument pas de critères techniques dans ses choix ou dans son appréciation du travail qu'on faisait. Et ça m'a vachement séduit de travailler dans ce sens-là. Et bon, il fait une musique qui est assez sensible, donc ça, c'est en osmose avec ce qu'on essaye de rechercher, mais je trouve que c'est un boulot intéressant de travailler avec lui, aussi bien humainement qu'artistiquement, donc j'ai un petit peu hâte de reprendre un disque avec lui. Je pense que ça va avoir lieu courant de l'année. Sinon, là, de fixer, j'ai du mixage pour le prochain album de Anaïs, et un éventuel mixage pour un nouvel album de R.
Très bien, merci d'être venu. Et puis j'espère qu'on se retrouvera au moins pour la
pour
version
du
biscuit.
Bazar.
Avec
du bazar.
pour parler bazar et biscuit, mais
allez.
Voilà, merci à Stéphane Bria.
Merci
Alf. Et puis à très bientôt alors.
À bientôt.
Merci Christophe.
Merci à tous les deux, à bientôt. Au revoir.
Au revoir, autre radio, autre culture, à bientôt. Oh. Autre radio, autre culture.